quand je prenais le train, effectivement, je passais tout le temps devant ce bâtiment et je me suis dit, ah mais c'est dommage, ce grand bâtiment, on voyait qu'il était en train de s'abîmer, il y avait les volets fermés, il faudrait en faire quelque chose.
J'ai enjambé une barrière qui était prise dans le lierre, alors j'avais pas le droit, hein, parce qu'on n'était pas encore propriétaire.
Et la première fois qu'on est rentré,
c'était assez fouillis, c'était beaucoup de verdure.
C'est une friche, quoi, partout.
Alors, c'était rigolo, il y avait du très ancien papier peint.
Et ma plus grande surprise, et ça je m'en rappellerai comme si c'était hier, c'était ouvert, le rez-de-chaussée. Et là, il y avait un four à pain.
C'était tellement grand qu'on avait du mal à s'imaginer qu'on arriverait à tout occuper.
Donc là, je suis face à la maison.
Puis maintenant, c'est marrant parce que c'est trop petit.
Des grandes baies vitrées. Quelqu'un qui déplace une chaise. En hauteur, très haute maison. Très très haute.
Moi, c'est Léo. Je suis né à Trappes, le 7-8. Et à ma naissance, j'avais deux grands frères déjà. Mes parents ont décidé de partir à la campagne. Dans le Périgord où il y avait ma grand-mère paternelle. Et ils ont acheté un bois. Et dans ce bois, ils ont construit une cabane en attendant de construire la maison. Donc les premières années de ma vie, je les ai passées dans un bois, véritablement une forêt, quoi. Une très belle forêt où les premiers voisins étaient à plusieurs kilomètres. Ensuite, je suis parti à l'internat pour y faire un sport-études, parce que je faisais beaucoup de foot à Angoulême. Et j'ai fait le reste de mes études à Lyon, à l'université, où j'ai fait une thèse. Et j'ai été recruté à Paris en tant que maître de conférence 5 ans après ma thèse. C'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps, cette idée que je ne ferai jamais qu'un métier intellectuel. Mais j'ai été sensibilisé à la question de l'alimentation parce que j'ai mis les pieds complètement par hasard dans une AMAP à Lyon et en fait j'y connaissais rien. Ensuite on a créé le réseau des AMAP de la région Rhône-Alpes en 2005. À un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau, le militantisme, la parole, il faut qu'on s'installe, en fait, parce que plus il y aura de paysans, plus ça sera facile, parce qu'on va s'entraider, parce que ça va se voir. Et donc, voilà, à un moment donné, c'était assez clair dans ma tête que j'allais m'installer. Mon ex-épouse, en tant qu'éleveuse en poule pondeuse, et moi, j'avais le projet, tout début, de m'installer en tant que paysan boulanger. L'autre couple qui était avec nous, c'était en viticulture. On est arrivé ici pour la première fois, c'était en 2014. On a rencontré un agriculteur du village qui s'appelle Yvon Michéa, qui est un ancien vigneron. Et il avait passé une petite annonce pour dire qu'il allait partir à la retraite et que ses vignes étaient à reprendre. Et de fil en aiguille, le maire nous dit « Mais tiens, il y a une maison qui va être mise en vente parce que la personne est décédée, c'est une indivision, il faudrait que vous alliez voir. » Donc moi, je me suis dit, il faut qu'on mette les habitants du territoire dans l'affaire. J'ai jamais cru aux paysans héros qui s'installent tout seuls dans son coin. Je voulais pas qu'on soit que quatre. Du coup, on a lancé une dynamique à ce moment-là de création d'un GFA, donc un groupement foncier agricole citoyen. Il y a 3 hectares là. Ces 3 hectares, on les sort de l'achat. La SCI, elle achète que le bâtiment. Et ces 3 hectares, on va les faire acheter collectivement par des habitants du territoire. Fallait que ce projet nous dépasse. On a mis des petits flyers dans les boîtes aux lettres. Participer à l'acquisition de terres agricoles pour aider à l'installation paysanne. Réunion publique, mairie de Malin, et c'était en 2015, et c'était blindé. Il y avait des gens debout dans le couloir. Ça couvait, quoi. Je pense qu'il y avait plein de gens, en fait, qui attendaient l'étincelle.
On a tout de suite compris qu'il y avait une énergie, quelque chose de joyeux. Ça nous a pris à paix, complètement.
Dany.
Un peu utopique comme pensée, mais on en avait besoin.
Bénévole.
Et on trouvait que le projet qui se passait ici...
Bernard Gilles.
...répondait à quelque chose qui sommeillait en nous, avec un désir de s'impliquer.
Bénévole.
Ça sent la bière.
On est arrivé très très tôt dans les projets qui se sont passés. C'était lors de l'AG de la MAP, Léo, qu'on ne connaissait pas, vient à cet AG pour présenter leur projet. Et on a commencé à participer au processus de création du GEFA. Alors moi, je suis Jennifer, je suis brasseuse. Donc ça va faire 8 ans que je fais de la bière sur le lieu.
Et Renaud, je suis jardinier paysagiste et je cultive du houblon pour essayer d'autonomiser la brasserie sur cette matière.
Je suis arrivée à Dijon pour la fin de mes études. J'ai fait une thèse qui était, à l'époque, je travaillais sur le vin.
Alors moi, j'ai arrêté l'école après mon BEP. Donc après, j'ai fait de la restauration pendant une bonne dizaine d'années. J'ai pu refaire une reconversion professionnelle en tant que jardinier paysagiste. Et depuis, je m'éclate moi dans mon métier.
On a passé un an à Montréal. Il y avait vraiment des brasseries, j'ai découvert ça et je me suis dit « Ah là là, mais ce serait chouette de monter ça en France, il n'y en a pas beaucoup. » J'ai commencé à faire de la bière un peu chez moi. J'étais aussi en recherche pour m'installer pour faire une brasserie. Donc il y avait les deux couples, Léo et Myriam, François et Claire. Donc c'est vrai que...
Assez vite, s'est posé la question de savoir si on venait y habiter ou pas, quoi.
On s'est dit « Bon, allez, go, on y va.
» Et au final, on a inversé les choses, c'est-à-dire qu'on a commencé à refaire les travaux de logement et après la brasserie.
Alors moi, j'ai trouvé des anciennes bouteilles. Elles étaient... Moi, j'ai démarré en 2017, donc on a emménagé en décembre 2016. Dans le mur, ça fait comme une mini, toute petite cave et elles étaient là.
En fait, il y a eu quand même un moment... chaud, où à la fois il fallait construire son projet d'installation, faire vivre les structures qui avaient été créées.
Léo.
Le GFA et la SCI, il y en avait une troisième après, l'association qu'on a créée un an après, Rhizome. Et en même temps, rénover nos logements. Et il y avait la vie de famille, Marius avait 3, Héloïse avait 6. Il fallait jongler avec les enfants parce qu'on était bien pris dans ce projet-là. Mais je crois qu'ils sont dans des bons souvenirs.
Ce qui contrebalançait peut-être la peur devant tous ces chantiers, c'était cette dynamique collective. On n'était pas seul devant ça. Quand on faisait les réunions pour le GFA, il y avait du monde. Et on voyait plein de personnes très motivées, très partantes. On se sentait soutenus. Et puis, quand les premiers chantiers ont eu lieu, il y a eu des personnes qui sont venues nous aider. Donc, ça a rassuré.
Ce petit mur-là, grâce à quelqu'un qui est spécialiste des murets en pierre. En une semaine, on était, pas tous les jours, mais une trentaine là-dessus.
Dani.
C'est formidable quand on est nombreux de voir tout qui se met en place. Tranquille. On trouve vite quelque chose à faire, tac, puis on passe à autre chose, et puis ça se construit comme ça. Des bons souvenirs, ça.
On a eu aussi beaucoup de repas, de fin de chantier, de moments où, à passer une super soirée après ces journées-là.
On a été beaucoup dans l'opérationnel quand on est arrivé ici. Et quand on est dans l'opérationnel et qu'on ne prend pas assez de temps pour discuter, pour poser des règles, quand ça va bien, ça va bien. Et quand ça va mal, on n'a pas les outils, on n'a pas le texte qui fait qu'on peut se référer.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, avec ceux qui avaient repris les vignes, ça a commencé à faire que finalement, c'est un peu moins collectif sur les travaux. Et puis, on sent que pour certains, ça devient la corvée de venir en réunion. Des tensions venaient naître entre certaines personnes. Donc on a fait appel à quelqu'un pour faire une médiation.
Et il y a eu un désaccord sur des aspects financiers. Ils avaient dans la tête de retirer quelque chose d'individuel de cette expérience, d'un point de vue économique. Nous, en fait, tous les gens qui ont créé le GFA, la SCI, la Rhizome ensuite, de façon implicite peut-être, mais c'était un projet au service d'un truc qui nous dépasse, au service du bien commun. On était en train de créer un commun qui n'avait pas d'enrichissement personnel, pas de spéculation, pas de capitalisation. Mais on ne l'avait pas écrit. Ces personnes-là... À un moment donné, elles ont voulu récupérer de l'argent dans ce projet-là. Et nous, on n'était pas d'accord. Donc, on est rentré en conflit avec eux.
Et les choses, finalement, à l'issue de cette médiation, ne sont pas résolues du tout. On a acté de de se dire, bon, ben, je garde quand même mon activité ici, parce que je n'ai pas forcément envie de tout redéménager, mais au moins ne plus avoir un logement sur place. C'était pour moi une soupape de se dire, bon, ben, je viens travailler ici, mais le soir, je suis loin des tensions, de tout ça. Voilà. Ça a été un passage très douloureux et je pense que voilà, ça met du temps à...
C'est que on a toujours essayé de se dire dès le début, bon, si on a des problèmes entre nous, on essaie de les régler, mais on va pas s'étaler sur la place publique toutes nos histoires, quoi. Et puis en fait, ça a quand même été beaucoup ragoté à droite à gauche, et on s'est retrouvé avec comme si le bâtiment était divisé en trois, quoi, avec un glaçon au milieu.
Eh ben, ils sont partis. C'est allé jusqu'en justice, quoi. Voilà, donc. Je regrette d'avoir perdu des amis, mais je ne regrette pas la façon dont les choses se sont déroulées, parce que ça serait vouloir dire que ça aurait pu se dérouler autrement, et je ne crois pas. Je crois qu'il faut accepter qu'à un moment donné, il y ait des ruptures, quoi.
Je suis arrivé ici il y a bientôt 10 ans, en fait, jour pour jour, à la suite d'une reconversion professionnelle. J'étais ingénieur bâtiment, structure bois. Moi, je suis Cyril Beaulieu et je suis agriculteur. Je cultive des céréales que je transforme en farine et en pain. Et moi, je suis arrivé à ce titre-là en tant que porteur de projet pour cultiver les parcelles qu'on allait acquérir dans le futur. En fait, je fais du pain depuis longtemps, 14-15 ans, ouais, à l'adolescence. Je me souviens très bien aller chercher les bouquins au-dessus de l'étagère, dans la cuisine, feuilleter ces superbes photos de pain qui étaient très probablement faits avec de la levure. Et moi, j'avais envie de faire du pain au levain, parce que je savais que ça se faisait. Donc j'ai essayé, j'ai raté, j'ai réessayé, j'ai raté à nouveau, j'ai arrêté pendant longtemps, mais ça m'a jamais quitté, et puis à un moment donné, j'ai pu arrêter de faire du pain. Et puis maintenant, j'en fais mon métier depuis 10 ans.
J'avais notamment vu un article sur Reporter en me disant « Ouais, c'est génial ce qui se passait à Malin », parce que je suis venue à la base pour une assemblée générale, j'ai rencontré Cyril qui était impliqué dans cette association-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis plus impliquée ici. Je suis venue habiter avec Cyril et compagnie.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
5 ans, ouais. Quand Cyril est arrivé, il l'a emménagé un peu plus bas, dans le village. On n'est pas arrivé en même temps ici à Malin. Je suis Colline et je suis éleveuse de brebis laitières et je fais du fromage ici depuis 4 ans. Je suis fille d'agriculteur. Mes parents et tous mes oncles sont agriculteurs. Quand j'étais petite, ils avaient de l'élevage de vaches et des vignes. Je ne me suis pas dirigée dans cette voie au début, mais c'est très vite revenu puisque j'ai fait mon stage de fin d'études à la Confédération Paysanne. J'ai travaillé dans des associations agricoles alors qu'à la base, j'ai fait Sciences Po. Et puis, en fait, rester derrière un bureau à faire des demandes de subventions qui n'avaient pas énormément de sens pour moi, c'était pas tenable. Et j'avais envie de me dire que je participais concrètement à des alternatives. On va y aller, les filles ? Allez ! Et en fait, je suis arrivée au moment où un des anciens agriculteurs du village cédait sa ferme. Et il y avait notamment une partie des prés qui était à reprendre. Et en fait, ici, moi, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'élevage. Il y avait rarement du fromage quand on allait sur les marchés du coin. Et il y avait un côté cohérent et complémentaire de venir faire de l'élevage ici, quoi.
Donc là, elles appellent leurs petits pour bien être sûres qu'ils les suivent et qu'ils ne restent pas auprès. Donc ça fait beaucoup de bruit.
Allez.
Mon projet, c'était de m'installer. Mais en fait, quand j'ai vu l'ampleur du travail qu'il y avait à faire, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup aidé à créer les structures et à les faire vivre.
Léo.
J'étais à fond dans les travaux. J'ai dit, c'est juste pas possible que je m'installe, quoi. C'est juste impossible. Non. Et financièrement, c'était mieux que je garde mon boulot, parce que tout ça était très risqué, économiquement.
Là, je monte, là, je vais pas.
J'étais conjoint collaborateur sur la ferme de mon ex-épouse qui était en élevage avicole, poule pondeuse. Donc, j'ai participé aussi à cette activité-là. Et en même temps, assez rapidement, j'ai senti le besoin de lancer aussi moi mon activité. Est-ce que c'est ce qui me tenait depuis longtemps de faire concrètement des choses, mettre les pieds dans la paysannerie pleinement? Des fois, j'ai besoin de poser du tourteau parce que je le vends, le tourteau, pour l'alimentation animale. Qu'est-ce que j'allais faire, quoi? Moi, je crois que je ferais plus tout faire.
Voilà.
C'est lourd, ça?
Ouais. Je vais te dire combien ça pèse. Hop. Donc là, j'allume.
Mon ex-épouse, beaucoup de stress. Elle a pas tenu cette intensité d'activité. À un moment donné, elle a craqué, quoi. Ras-le-bol du collectif, ras-le-bol de son activité. Et puis nous, dans notre histoire de couple, c'était aussi la fin de quelque chose, quoi. Ça s'est fait qu'elle est partie du lieu, on s'est séparés. Et puis il a fallu rebondir. Voilà, donc là j'ai un sac de 22 kilos.
Ah oui, pas vrai.
De tourteau, de chanvre, voilà.
Qui est suspendu là.
Qui est donc suspendu, voilà. Mais je peux peser jusqu'à une tonne.
Ce qui est marquant, en fait, c'est l'entremêlement entre le privé et le pro. La séparation de Léo et Myriam, pour moi, a été quelque chose de marquant. Où nos vies, elles sont intriquées, quoi. Et c'est ce qui est à la fois chouette et parfois aussi dur. Il y a des fois où tu aurais envie de mettre pause. Enfin, ce côté, je rentre à la maison, je raccroche avec le travail et je peux me consacrer à d'autres choses. Là, il n'y a jamais ces temps-là, en fait. Tout est tout le temps mélangé, à la fois... T'es à la maison, tu continues de travailler, les gens que tu crois sont tes collègues et tes amis. Et parfois, t'aurais envie de pouvoir faire un break, quoi. Rien que notre vue, quoi, elle rappelle le travail, parce qu'on est tout le temps en train de regarder les champs, quoi. C'est la particularité du métier d'agriculteur, et c'est ce qui en fait aussi sa beauté. C'est que c'est pas un métier, c'est un mode de vie.
En fait, le collectif, il est... hyper important. Ici, tout est collectif, on est hyper interdépendant. On habite à côté, on travaille ensemble, on partage des moments conviviaux ensemble, on partage des moments difficiles ensemble. Et donc tout ça, il faut qu'à un moment donné, ça se passe dans de bonnes conditions, sereinement pour tout le monde.
Marqué fourreau du pic.
Constructeur dijonnais.
Il est magnifique ce four.
Un four à gueulard.
Oui, c'est une grande bouche à travers lesquelles sort la flamme qui arrive par en dessous, et on va la déplacer de gauche à droite pendant toute la chauffe pour que la flamme lèche tous les côtés du four et puisse chauffer de manière relativement uniforme. La dynamique associative m'avait vraiment frappée. Pendant les 2 semaines où on était là, il y avait eu une fête ici, il y a eu quelque chose qui nous avait permis de rencontrer des gens.
Mais c'était la fin du Covid et on s'est retrouvés sur le parking de la Tourniquette qui n'était pas encore ouverte à ce moment-là, à effectivement chanter des chansons avec des gens qu'on ne connaissait pas. Mais...
Tout ça, ça avait l'air festif, ça avait l'air joyeux, ça avait l'air... Ça donnait envie de rentrer dedans. Et moi, c'est Julie, je suis boulangère biscuitière.
Donc, moi, je suis Émilien, je suis paysan traiteur, éleveur de porc, du cochon à l'assiette.
Moi, j'étais psychologue et chercheur en santé mentale avant. Et je passais ma vie en réunion, dans les trains. J'étais dans un métier qui finalement était gouverné par les financeurs et les politiques. Et l'éthique manquait cruellement à mon quotidien.
J'étais en formation d'enseignant-chercheur aussi, en psycho aussi. Prendre soin des gens, il y avait plusieurs façons de le faire. Et prendre soin du vivant aussi, ça passait par la terre, aussi par la production, par l'alimentation. Et c'est un système qui nous semblait assez global.
J'avais aussi envie de travailler avec mes mains, trouver un rythme de travail qui me corresponde. Il y a plusieurs choses qui me plaisaient, mais le jour où j'ai mis les mains dans une pâte à pain, ça a été une révélation, en fait. Ça a été un gros coup de cœur pour l'ambiance chaude et sèche d'un fournil, pour le travail de cette matière vivante. ça me correspondait complètement.
Eh ben les gros pépères, coucou les gros, c'est l'heure de la gamelle. Salut les pépères.
Bah oui, c'était qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est pas l'heure de manger, qu'est-ce que c'est?
Quand je me suis installé, c'était sans doute l'atelier dans lequel j'étais le moins compétent, c'était les cochons. Et les cochons, c'était un beau challenge, parce que c'est un animal qui est très intelligent. Il est aussi au croisement de l'alimentation sur une ferme. Il va se nourrir de céréales qu'on produit exprès pour lui, mais il va aussi se nourrir de coproduits des différents ateliers. Il va manger les drèches de brasserie, il va manger le son, il va manger des légumes qui sont pas tout à fait bons pour la commercialisation. Il va pouvoir manger le petit lait, effectivement, des brebis, par exemple. Et les tourteaux de la fabrication d'huile. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui peut valoriser, un peu au cœur d'un ensemble fermier comme on a ici. Et je trouvais ça passionnant.
Nous, quand on est arrivé, c'était déjà tout fait, mais c'est vrai que c'est pas mal. La vue est chouette.
Bah, des grandes baies vitrées partout.
Oui, voilà. On a 4 chambres, c'est ça, hein? Ouais. Il y en a une qui sert de bureau pour Florian. Nous, on a une chambre, Tao, il a une chambre. Et Baptiste, il a toute une mezzanine et sa salle de bain. 105, ouais. On a le plus grand des 5 logements en termes de superficie, ouais. C'était important pour moi qu'on soit au moins 3 dans mon projet de ferme. Et après, de voir ici tout ce qu'il y avait de possibilités en plus, moi, ça m'a beaucoup séduit. Je m'appelle Manon et je suis maraîchère donc depuis 2 ans maintenant. Et je suis en couple avec Florian et on a un petit garçon qui s'appelle Tao qui a bientôt 3 ans. J'avais pas spécialement réfléchi à un habitat groupé, mais dans les faits, je trouve ça chouette. Surtout depuis que je suis maman, en fait, de voir ce qu'on peut offrir à notre fils en vivant ici. Je trouve ça hyper riche pour lui. Ça va, mon petit chat?
Ça, c'est un micro, on parle dedans et on enregistre.
Est-ce que tu veux t'approcher? Ouais, ça t'effraie un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sous-groupes ici, de plein de réunions. Voilà, et du coup, on est tous investis, après, voilà, à des degrés plus ou moins importants, mais dans des... soit des conseils d'administration, soit des... groupe de travail, soit des comités. Donc ça fait partie de la vie du lieu, ouais, d'avoir souvent au moins une fois toutes les 2 semaines une réunion pour nous. Et c'est vrai que c'est hyper riche parce qu'il y a plein de choses qui avancent sans nous. En fait, les groupes de travail dont on ne fait pas partie, bah, c'est hyper chouette parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place alors que nous, on n'y a pas mis d'énergie. Mais du coup, la contrepartie, c'est que nous, on met notre énergie à d'autres endroits pour que ça avance. Il est assez sociable parce qu'ici, on voit quand même beaucoup de monde.
On avait envie, pas juste de faire du maraîchage, on avait envie de devenir partie prenante des choses qui se passent ici, plutôt de l'engagement bénévole. Donc par exemple, faire des permanences à la tourniquette, ou faire des permanences au chauve-savate, organiser des projections, être au conseil d'administration de Rhizome, l'association. Bon, et c'est important d'avoir du temps pour le faire et pas de le faire comme une corvée, quoi. Je m'appelle Baptiste Ricci, j'ai 34 ans. Moi, je vis juste au-dessus du café associatif en colocation avec Florian, Manon et Tao, leur enfant.
Donc Baptiste paye un tiers du loyer et Florian et moi, on paye les 2 tiers restants. Mais avec ce que nous verse comme allocation pour le logement, la MSA, on paye presque rien, on paye 20 € par mois. Donc ça va. C'est une grande chance pour ça, ici. C'était dans le projet politique de fournir un logement... accessible aux paysans et proche de leur lieu d'installation.
Je pense que faut être un peu fou pour s'installer sans collectif aujourd'hui, enfin seul aujourd'hui et de façon isolée. Je pense qu'il y a trop de contraintes au métier d'agriculteur, enfin pour qu'on puisse le faire tout en étant serein et détendu dans sa vie, quoi. Donc moi c'était un critère, ouais, qu'il y ait au moins un aspect collectif. Mais je trouvais plus sympa aussi d'avoir quelque chose de plus large qui puisse permettre
des échanges d'idées, de matériel, de, voilà, des échanges au sens large, quoi. Florian, je suis praticien en médecine chinoise et je fais du maraîchage à côté à peu près à mi-temps.
Ça va avec le petit dans le dos là, tu fais la
ouais,
faux.
C'est un peu physique. Ouais. C'est un peu physique. C'est rare que je le fasse avec Tao quand même. Mais là, il voulait pas descendre. Il était trop bien dans mon dos.
Ah, tu aiguises la faux?
Ouais.
Je faisais des études de droit international. Et après, j'ai travaillé à France Terre d'Asile, qui est une association qui accompagne les demandeurs d'asile et les réfugiés.
Manon.
Un jour, je me rappelle que je suis rentrée aux vacances de Noël chez mes parents. Et que je me suis dit, pourquoi je travaille dans un bureau? Ouais, ça a commencé comme ça. Et je suis tombée sur un site gouvernemental qui recense les différentes formations, notamment pour se reconvertir. Et on pouvait cliquer sur une petite étoile qui allait mettre les formations en favoris. Et j'ai pas fait ça consciemment, mais en tout cas, au bout d'un mois, je suis allée voir dans les favoris qu'est-ce que j'avais mis. Et en fait, j'avais mis 5 trucs sur 6, c'était du maraîchage. Mon grand-père, il était agriculteur. Il était déjà à la retraite quand moi j'étais enfant, mais il avait encore un grand potager jardin. J'étais jamais allée dans une ferme maraîchère. Et donc, en fait, je me suis lancée dans cette formation sans en avoir jamais fait. La première semaine de stage, donc on était en pause de son emploi salarié, mais on recevait son salaire. Et donc, je me rappelle m'être dit « Waouh, mais je suis payée pour faire ça !» Ça me semblait un rêve.
Et à faire ça l'année dernière, j'y prends beaucoup plus de plaisir qu'à la débroussailleuse.
J'aime beaucoup les outils manuels. Dans bien des cas, on pourrait faire uniquement avec cela. Ça évite de faire aussi plus que ce qu'on a besoin de faire.
Je viens de Bretagne, en campagne près de Rennes. J'ai un papa agriculteur et une maman agricultrice sur une partie aussi de sa carrière.
Florian.
Et je suis passé en région parisienne entre mes 20 et mes 28 ans pour travailler en tant qu'ingénieur en électronique. Et après, donc j'ai commencé et la formation de maraîchage et la formation de médecine chinoise en même temps.
J'ai toujours été intéressé par le maraîchage, mais j'ai été prof de philo contractuel pendant 2 ans en banlieue parisienne. Et une partie de ma famille est originaire de Corse. Du coup, j'ai passé 1 an en Corse.
Baptiste.
J'ai fait pas mal de jardins avec mes grands-oncles qui sont à la retraite, qui ont 80 ans et quelques, qui font l'huile d'olive. C'était facile parce que la moitié du village porte mon nom de famille. Les gens, ils me connaissent. J'avais amené la pile de bouquins que j'avais toujours voulu lire. Enfin, c'est quand même un cadre de vie idéal, quoi. Mais j'étais quand même assez isolé. Du coup, j'ai pu faire une formation de 8 mois en partant sur 3 fermes dans toute la France en maraîchage agroécologique. Le premier binôme que j'ai fait, c'était avec Florian. Manon, elle est originaire du coin. C'est elle qui m'a fait découvrir cet endroit et qui m'a dit « Ici, il y a des gens qui cherchent des maraîchers. Si tu veux, avec Florian et toi, on pourrait leur proposer une installation collective en maraîchage. »
Vous avez une table à semis ?
Oui. Parce que cette année, on s'est donné pour objectif de faire nos plants de patates douces. Et là, on les a sortis comme il fait beau. Et donc, depuis octobre, on a ça dans notre salon. Voilà, salon de maraîcher, quoi. Il y a une table de 3 mètres sur 2. Mais on planque les jouets du petit en dessous. Tu vois, ça est double effet, quoi. Ça...
Je pense que je ne serais pas capable de décrocher complètement du maraîchage. Je trouve ça magnifique, le potentiel de jeu qu'offre la nature et les plantes. L'évolution au cours des saisons, je suis toujours émerveillé à chaque fois que je vois le démarrage au printemps, toute l'explosion de vie que ça représente et à laquelle on peut assister, d'autant plus depuis notre balcon qui offre un point de vue assez fou sur la nature environnante.
Moi je pense que c'est une des choses que je préfère quand on voit une petite pousse émerger. Tant qu'on sème et de faire pas mal de semis directs, t'as toujours ce doute que ça va pas pousser.
Mais dès que tu vois que ça commence à émerger, la petite plantule, c'est hyper satisfaisant, quoi, de se dire « Ah ouais, ça, c'est grâce à nous que cette petite plante, elle pousse. » Ouais, moi, je trouve que c'est quand même être émerveillé devant un bébé ou devant un bébé animal, quoi. C'est cette pulsion de vie de départ qui est hyper touchante. Elle, c'est une warrior, elle a eu 3 petits. Oui, ça gratte.
Mais elle est sympa, elle vient de voir, elle vient de faire des câlins.
Ouais, mais en fait, elles sont super habituées au contact humain, puisque tous les matins et tous les soirs, je les manipule. Enfin, je les manipule. Elles viennent me voir, tout ça, quoi. Donc, Toute l'ambiguïté de l'élevage, c'est qu'à la fois c'est très dur, mais c'est aussi très fort, quoi. Les moments des agnolages, des naissances, enfin, vraiment un contact avec la vie. Et les aléas sont d'autant plus lourds, conséquents et difficiles à vivre. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de voir un semi raté, c'est toujours difficile de voir une culture ravagée. Je pense que c'est plus difficile de voir des animaux mourir parce que, surtout quand on a l'impression d'avoir mal fait quelque chose, quoi. Quand on se dit que c'est de sa faute. Bah, vu que je suis jeune maman, enfin, la première année de vie de Capucine, je me suis dit oh, j'aurais dû choisir du vivant moins vivant, parce qu'en effet, une brebis qui a besoin de toi, ça attend moins qu'une tomate. Et puis pour une tomate, tu peux te dire tant pis. Une brebis, tu te dis pas tant pis. Le troupeau était un peu la priorité sur tout, quoi. Et depuis que je suis maman, bah, c'est pas le cas. Clairement, je sais que ma priorité, c'est être présente pour ma fille. Et du coup, ça m'invite aussi à retravailler mon rapport et au troupeau et au travail. J'adore la vie qu'on a ici. Je trouve que c'est...
Manon ?
Ouais, c'est tellement une chance. Et en même temps, bah, faut la saisir, cette chance. Mais de pouvoir mener sa vie comme on trouve qu'elle est la plus alignée avec ce à quoi on aspire. Un cadre de vie hyper riche, avec une vie locale et entre voisins et avec d'autres habitants. De pouvoir faire nos courses à la tourniquette avec que des produits dont on sait d'où ils viennent. Pour moi, par exemple, c'est une très grande source de satisfaction de ne pas aller au supermarché ou juste une fois tous les 2 mois pour acheter les couches du petit, quoi.
En 3 ans, j'avais à peine mis les pieds à Dijon.
Oui, c'est
et,
ça.
Et oui, il y a une vie sociale qui est suffisamment riche ici pour pas avoir besoin d'aller chercher ailleurs. Ouais.
Bonjour. En fait, on peut tout acheter ici, quasiment.
Quasiment.
Peut-être les produits d'hygiène ou des choses comme
si,
ça.
Si, si, vous avez aussi. Derrière, oui, oui. Enfin, ouais,
et du liquide vaisselle.
Comment c'est la chanson ?
La complainte du progrès.
Le papier toilette, tout ça.
Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai.
Les savons, les shampoings.
Une
secs,
tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs.
C'est, pourtant j'ai la chanson, c'est un voir avec le nouveau monde, mais
je me rappelle que... Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
La création de la tourniquette, qui était un peu le... presque une consécration, quoi, d'arriver à vendre les produits locaux sur place.
Odile, bénévole.
C'était un petit hangar qui est devenu une belle épicerie où on peut tout acheter. C'est-à-dire que les personnes, et j'en fais partie, peuvent ne plus aller dans les supermarchés. Et ça, du coup, forcément, il faut quand même passer par une plateforme. Donc le principe, c'est qu'il y a un référent par producteur. Quand j'ai du temps, que je vois qu'il y a des permanences qui n'ont pas été prises, ça me permet d'avoir l'impression d'être utile tout en repoussant un peu le travail que j'ai à faire. Donc c'est toujours bien agréable.
Vous venez faire vos courses ici ?
Eh bien, de temps en temps. Et puis là, bon, j'accompagne un ami qui va venir donner aussi un coup de main.
Chaque année, on réfléchit sur comment ouvrir, comment on fait des portes ouvertes, en fait, pour essayer de faire venir d'autres personnes. Et je pense toujours à ça, à la tourniquette, pour en tous les cas accueillir les personnes qui arrivent là pour la première fois et qu'ils n'aient pas l'impression de rentrer dans un, voilà, dans un club très privé.
Forcément, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'on fait et qui, du coup, sont très critiques, voire hostiles, quoi.
Baptiste.
Mais c'est normal. L'épicerie, avant de pouvoir consommer dedans, il faut être adhérent. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Le truc qu'on entend classique, c'est les bobos écolos gauchos de là-haut.
Les babas cool de la rue de la gare. Ou le... Une fois, il y a une dame du village qui m'a dit « Ah, vous habitez au kibboutz !»
Et il y avait besoin que ce milieu complexe et résilient puisse à un moment donné trouver une forme de cohérence, de visibilité aussi à l'extérieur. Ça a pris la forme de la SIC Ferme en commun, voilà, qui aujourd'hui un peu effectivement...
Léo.
La porte d'entrée, la vitrine, voilà, la SIC Ferme en commun, elle représente un petit peu tout ce qu'on fait, toute sa diversité. La SIC, elle est déjà propriétaire de l'ensemble de l'immobilier ici. Donc c'est déjà une entité qui garantit que le lieu ici soit un commun, en gros inaliénable, incapturable, non spéculatif sur le très long terme. En gros, tout l'immobilier ici, il appartient à personne. Et il ne pourra pas être vendu, il ne pourra pas faire l'objet d'une spéculation, d'une valorisation, parce qu'il appartient à la SIC Ferme en commun. Bon, la SIC, ensuite, elle a pour deuxième fonction de réunir toutes les entités de l'écosystème dans une même structure pour décider des grandes orientations du lieu. Rhizome, le GFA, tous les paysans et les artisans sont dedans. Il y a la mairie de Malin, par exemple, partie prenante de nos projets. Puis il y a tout un tas de bénévoles, citoyens, qui sont actifs sur le lieu, qui participent et qui sont aussi membres de la SIC. Donc c'est un peu une plateforme de discussion, d'orientation, quoi.
Il y a un truc qui m'a un petit peu
Bernard Gilles
interpellé, c'est que il y a une énergie d'aller en avant ici. Et dans cette énergie d'aller en avant, j'avais l'impression qu'on prenait peut-être pas assez en compte le présent avec ces problèmes de conflits et de tensions, de tout inhérentes à tout groupe humain.
Dans la plupart, finalement, des projets.
Jennifer.
Le côté matériel, financier, finalement, on arrive à trouver des solutions. Et là où il y a toujours une... où peut y avoir une grosse difficulté, c'est toujours avec le côté humain et...
Ça induit la question de comment on se choisit, en fait.
Cyril.
Avec certaines personnes où ça frotte plus qu'avec d'autres, voilà.
Il y a eu pas mal de choses positives, mais il y a eu pas mal de difficultés aussi qui font que ça nous a obligés, surtout moi,
Emilien,
à me confronter à ma façon d'être en collectif, à ma façon d'être aux autres, le rapport au travail, le rapport à un tas de choses, qui était plus simple à écrire qu'à faire. Et on fait avec, on essaye de construire au quotidien. Ça demande de l'énergie et c'est pas facile.
Et j'ai peut-être... perdu un certain degré d'illusion, en fait, d'utopie.
Julie.
Parce que un collectif comme celui-ci, c'est super chouette, c'est magnifique, mais ça reste une micro-société et dans laquelle il y a des phénomènes humains qui se déroulent et qui ne sont pas simples à gérer tous les jours. Et,
le collectif, c'est pas un outil magique, mais ça fait beaucoup rêver.
On a encore des marges de progression, comme dans tous les lieux, j'imagine. Mais
Manon.
Moi, je sens que je serai encore plus alignée quand on aura avancé sur ce chemin du relationnel et du bien vivre ensemble qui est en cours.
Maintenant, on a Baobab, qu'on a mis depuis qu'il y a la création de la SIC. C'est une instance de gestion des conflits. Enfin...
Une structure relativement neutre, parce que nous, on n'habite pas ici. D'avoir un peu un regard extérieur pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, écouter les problèmes.
C'est l'empathie qui domine et écouter l'autre, surtout sans interpréter.
Dani.
Et c'est l'écouter qui va de lui-même, je l'ai vraiment vécu sur moi, hein, trouver les solutions après coup.
Une certaine ouverture à un type d'écoute, moi je la dois à la naissance de notre premier enfant, qui s'est avéré être gravement handicapé, enfin au bout d'un an et demi, deux ans, privé de parole. Et donc du coup, écouter ce qu'une personne a à dire, ça nécessite de s'ouvrir à bien autre chose que les mots. Pour moi, ça a été une vraie révolution dans ma vie, bon, en plus du choc. C'est ce qui m'a ouvert à une manière d'écouter l'autre. Ça a été une très très grande leçon. Et j'origine beaucoup de mon rapport à la vie et aux autres à la naissance de notre fille. Oui, oui. Il s'est avéré qu'elle avait énormément de choses à dire, mais que par les yeux. Oui, c'est fort.
D'amener plus de douceur, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est aussi, pour moi, allié avec de la profondeur, de ce qu'on tisse ici, dans le relationnel, qui est de la profondeur en termes, oui, politiques et d'engagement écologique et d'offrir une nourriture de qualité. Il y a déjà cette profondeur-là, mais cette profondeur de relation d'âme à âme. Mais du coup, forcément, il y a de la douceur parce que ça va avec.
Qui s'en rapprocherait peut-être, sensibilité parlerait peut-être plus aux vivants, aux autres.
Mon coin à moi de répit.
Elle est m'allongée au champ sur la poche souple. Notre réserve d'eau qui fait 100 mètres cubes. Ça fait un peu comme un matelas rempli d'eau.
Le matin, effectivement, entre 4h30 et 7h, parce que je suis tout seul face à mes pattes.
T'es tranquille, il n'y a personne qui vient.
Il y a les oiseaux dehors.
Il y a juste les oiseaux, et puis je suis au milieu des champs.
Notre parcelle, et je sais que Florian, il pense la même chose. C'est notre lieu, c'est là où on construit.
Moi, l'endroit où je me sens le mieux, c'est à l'antipode de l'écologie. C'est dans mon camion, parce que je vais où je veux, je me sens libre.
C'est vraiment un lieu qui nous tient à cœur.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a de prise sur moi et c'est des moments agréables.
Je peux aussi prendre mon tapis et aller juste dans l'herbe un peu plus loin, ça me convient aussi.
C'est très méditatif, la traite à la main. Moi, c'est un peu mon coin à moi. Mon moment à moi.
Mais ici, moi, c'est quand même l'endroit où je suis hyper apaisé, quoi. Sur l'espace de la yourte, quoi.
Mon grand frère est décédé il y a 2 ans.
Et puis avec mon frère, on était hyper proches. Il voulait, lui, habiter dans une yourte. Et je lui ai dit, mais c'est un super projet, je l'accompagnais, je le poussais, parce qu'il avait plein de freins. Et je l'avais beaucoup encouragé, quoi. Il n'était pas loin. Voilà, donc je me suis un peu promis, mais à moi-même. Parce que j'ai pas pu lui dire, évidemment, parce que ça a été brutal, son départ. Et donc je me suis dit, allez, je vais faire la yourte. Le plancher, la rampe d'accès, la terrasse, le défrichage, les sanitaires, j'ai fait ça seul. Comme si j'étais en train d'être avec lui, en train de faire ça, quoi. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien. Et voilà, donc des fois, quand ça va pas, ben, je viens là, et puis, des fois, je parle avec lui. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est une façon de lui rendre hommage, quoi. Ben, il s'appelait Johan, et c'était Yo. Et du coup, c'est la yourte des Oléanes, c'est les initiales. Son décès, ça a été dur, ça a fait un choc, mais ça m'a donné encore plus de force. Je sais pas, j'ai l'impression que... Aujourd'hui, moi je suis confiant, Je sens que j'ai plein de ressources et je pense qu'elles viennent de lui, ouais.
Dans 20 ans. Oh, j'ai pas envie d'y penser, non. 62 ans.
Dans 20 ans, je pense que je serai ici ou en Corse. Moi, j'aimerais bien que ce que je fais puisse bénéficier aussi à ma famille. M'occuper de mes parents.
Tailler des arbres pour en faire du bois de chauffage, tout ça, c'est des choses qui mettent plus de 10 ans à mettre en place. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un terrain qui puisse être transmis comme ça et à mes enfants et puis pouvoir continuer à en profiter pendant une retraite.
Dans 20 ans, tu t'imagines, je veux dire, ne serait-ce qu'en termes de projection climat, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner.
Toujours autant de fleurs, toujours autant d'oiseaux, toujours autant d'insectes, mais ça...
Faire encore ce métier-là, au moins.
Hein? Peut-être. Dans 20 ans, t'auras 60 ans, t'auras pensé à la transition.
Ah,
hein?
Bah oui, mais bon...
Je suis pas sûre que dans 20 ans, je me vois encore brasseuse, mais j'aimerais bien que dans 20 ans, il y ait encore quelqu'un qui fasse de la bière ici, par contre.
Dans un labo qu'on partagera tous les deux avec Julie et...
Cuire le cochon, cuire les légumes, faire des salades, faire des...
Ben non, j'imagine ce lieu qui soit encore présent, plein de vie.
Il y aura toujours des problèmes d'humains et tout ça, mais ça tournera quand même.
Je me mets dans cette idée qu'à un moment donné, je vais lever l'ancre. Voilà. Mais la yourte, en fait, c'est facile à démonter et à remonter, et il y en a plein. Mais voilà, dans 20 ans, me dit, je serai peut-être là, ou peut-être pas. Et je me laisse la liberté de plein de choses différentes.
Voilà, et Tao, dans 20 ans, bah, il aura 22 ans. Donc, qui sait où il sera. Peut-être qu'il fera du maraîchage, mais peut-être pas. Peut-être qu'il ira bosser chez McDo pour voir ce que ça fait. Je sais pas, tu vois, en fait, tout est possible. Ce sera ses choix.
Merci à Jennifer, Renaud, Manon, Florian, Baptiste, Léo, Julie, Émile ou Émilien, Cyril, Colline, Odile, Bernard Gilles, Dany, Aurélie, Tao, et Capucine, même si on l'entend pas, aux anonymes de la tourniquette, les brebis, les cochons, les plantes, les ânes, le vent. Merci pour votre confiance et votre temps. Merci aussi à Julien Chafferlet, qui m'a mise en relation avec le collectif. Un documentaire de Léa Minot qui n'a pas encore de titre. Alors je vous invite à en trouver un. Réalisé pour le collectif de Malin en 2025.